Chapitre 4, 43 à 54. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'aucun prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc en Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure. Il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute la maison. Jésus fit accord à ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Cana. Prions. Seigneur notre Dieu, merci encore de ce qu'on peut puiser dans ta parole. Elle est là, Seigneur, pour qu'on puisse te connaître d'une façon plus intime encore. Et Seigneur, ce matin, ma prière est que tu puisses nous parler. Tu puisses nous parler par ce récit de Jean sur cet officier. Tu puisses nous guider, Seigneur, nous montrer combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es gracieux. Et qu'on puisse appliquer cette parole à nos cœurs afin, Seigneur, notre Dieu, de toujours te faire confiance en toutes choses. Parce que, Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, bénis-nous ce matin que rien vienne faire obstacle à ce message, Seigneur, et encore une fois, qu'il soit pour ta gloire à toi. Au nom de Christ. Amen. Permettez une seconde. Bon. OK. Ici, on voit une histoire qu'on lit dans... quoi, ça a pris quoi à lire cette histoire-là? Quelques secondes, je dirais même pas minutes, là. Puis, pourtant, cette histoire-là, ça a pris, si on regarde le temps, les kilomètres qu'il y a dans cette histoire-là, ça a dû... on peut calculer, hein, moi, j'ai fait des petites recherches, là, peut-être en 10 et 15 jours, je me laisse une grande espace, là. Mais ce récit-là, c'était entre 10 et 15 jours que ça s'est passé, ce petit récit-là. On ne sait pas ce que l'enfant, on ne sait pas c'est la maladie que l'enfant avait, on ne sait pas c'était quoi. On ne sait pas son âge, on ne sait pas non plus son nom. Mais on sait une chose, c'est que cet enfant-là avait quoi? Il avait la fièvre. Et puis, on sait une autre chose aussi, que c'est certain qu'il allait mourir avec cette fièvre-là l'emmenait à la mort. Et nous ici, nous avons un exemple de ce que redoute le plus, je crois, là, que peut redouter le plus les parents au monde. C'est qu'un jour, soit par accident, soit par maladie, c'est qu'il puisse perdre son enfant. Rien, il n'y a rien de plus anormal que la mort d'un enfant pour nous humains, pour nous parents, pour nous qui sommes plus vieux. Il n'y a rien de plus anormal qu'un enfant qui décède. C'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de tragique. Souvent, on ne veut même pas y penser. On est là, on a tous des enfants, des petits-enfants, peu importe. On ne veut même pas y penser à ça. On est mal à l'aise même d'en parler. On est mal à l'aise d'en parler. Mais il y a une chose à remarquer, que dans la Bible, dans la parole de Dieu, la première mort, c'était un fils qui est mort. C'était un enfant qui est mort. C'est Caïn qui a tué son frère Abel. Paul dit dans Romains 5, 12, plusieurs d'entre nous le connaissent, que la mort s'est étendue sur tous les hommes. La mort, elle est là, puis elle s'est étendue sur tous les hommes. Il ne parle pas seulement des adultes, mais il parle bien de toute la race humaine. C'est plate à dire, mais tôt ou tard, elle sera au rendez-vous. Pour moi, pour vous, adultes, ados, enfants, bébés, tous. Tôt ou tard, la mort sera au rendez-vous. Mais quand elle s'approche des jeunes, on panique. C'est la panique. C'est la panique pour les parents, c'est angoissant. Car Lewis a écrit dans un de ses livres, « Vous ne savez jamais vraiment à quel point vous croyez quoi que ce soit jusqu'à ce que sa vérité ou sa fausseté devienne pour vous une question de vie ou de mort. » C'est facile à dire que l'on croit qu'une corde est solide. C'est facile à dire, ça. Mais elle est solide quand on attache des paquets, tout ça, c'est facile à dire jusqu'au jour où vous allez être suspendu à cette corde au-dessus d'un précipice. Là, par exemple, là, vous allez voir que la foi que vous mettez dans cette corde. Mais c'est à ce moment-ci que nous allons voir à quel point qu'on puisse faire confiance à cette corde. Seule une épreuve, mes frères et mes sœurs, c'est pour moi, déterminera aussi la réalité de ma foi. Dans les épreuves, on peut voir la réalité de notre foi. Quand notre enfant est malade, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que mon enfant va guérir? Est-ce qu'il va guérir, mon enfant? On se fout. Je me fous que le médecin vienne me parler des effets secondaires, des analyses, des traitements, peu importe. Des médicaments, je me fous de ça, je me fous de l'opération. Tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que mon enfant va guérir? Je l'ai vécu dans ma vie. Mon fils a eu un tumeur au cerveau à l'âge de 20-21 ans. Tout ce que je voulais savoir, c'est est-ce que mon enfant va guérir? Merci Seigneur, il a accompli ce miracle dans la vie de mon enfant. Il a guéri suite à son opération. Il a 42 ans, 43 ans aujourd'hui. Je peux me tromper d'une année, mais vous savez, les pères, il est là. Puis aujourd'hui, il y a des enfants lui-même. Ici, dans le récit de Jean, on voit un homme qui est très, très, très important, qui a eu une conversation aussi très importante avec un homme très important qu'on connaît, nous, comme Sauveur et Seigneur. Il a eu une conversation avec Jésus-Christ lui-même. Le résultat de tout ça, ce fut un merveilleux miracle et ce qui est extraordinaire aussi dans cette histoire, c'est que Jésus n'a jamais vu l'enfant. Et l'enfant n'a jamais vu Jésus. On peut dire ici qu'on va voir, c'est un miracle à longue distance que l'apôtre Jean nous raconte ce matin. Laissez-moi vous dire, aucun d'entre nous ne naît dans la famille de Dieu avec une foi complètement développée et mature. Pas moi en tout cas, puis je m'imagine que pas vous non plus. Nous passons tous par différentes étapes pour que notre foi grandisse, pour en arriver là où Dieu nous veut. Il y a différentes étapes dans notre vie, dans notre marche chrétienne, pour arriver là où Dieu nous veut. On peut souvent se poser la question, on entend cette question aussi, on l'entend souvent, est-il possible de renforcer ma foi? Est-ce que c'est possible dans ma vie chrétienne que ma foi, elle soit renforcée? Ben, cette histoire, ce qu'on va voir ce matin, on va regarder différentes étapes, comment y parvenir à augmenter notre foi. La première étape dans les Écritures, dans ce qu'on a vu ce matin, c'est le verset 46. « Il y avait à Capharnaüm un officier du roi dont le fils était malade. » Avez-vous remarqué que c'est quand on a une épreuve que notre foi se met en branle? Il y a comme un petit moteur en dedans de nous là, quand on est dans l'épreuve, là, whoop! Là, on se met en marche, puis quand tout va bien, c'est facile. Quand tout va bien, c'est facile. On oublie Dieu, c'est facile d'oublier Dieu. Mais quand tout s'écroule alentour de nous, c'est comme un château de cartes. C'est comme un château de cartes, c'est hors de notre contrôle. Souvent, on panique. Puis, oups, là, qu'est-ce qui arrive? On commence à regarder vers le ciel. C'est l'histoire ici. L'histoire ici tourne autour d'un homme qui est appelé quoi? Officier du roi. C'était certainement un homme haut gradé, qui faisait partie de l'armée d'Hérode Antipas. Antipas, je veux bien le prononcer. Puis j'imagine que ça devait être un homme riche, un homme influent, un homme puissant, un homme avec une grande autorité aussi parce qu'il dépendait directement du roi. Il avait l'habitude de donner des ordres, puis il avait l'habitude aussi que les hommes à qui il donnait des ordres le craignent et le respectent. Puis dans cette histoire, nous apprenons que même les riches proches. Même les puissants de ce monde ont leurs problèmes. Peu importe la situation, peu importe l'argent que nous avons, peu importe qui nous sommes, jamais, jamais nous serons à l'abri des problèmes, des épreuves. Ce que ce père-là ne savait pas, là, c'est que cette épreuve, savez-vous quoi? Comme on dit souvent, elle était pour son bien. Elle était pour son bien, pour sa famille et pour sa maison, pour tous ses serviteurs. Si son fils, le fils à cet homme, n'avait pas été malade, il n'aurait jamais, jamais rencontré Jésus. Il n'aurait jamais rencontré le Seigneur. Vous savez, Dieu utilise parfois des épreuves pour quoi? Justement, attirer notre attention à lui. Si vous êtes dans l'épreuve, dites-vous, ou si vous ne l'êtes pas, Dieu va avoir quand même votre attention. Mais l'épreuve attire notre attention à Jésus. Par cette maladie, par cette épreuve, Dieu maintenant, il y a toute l'attention de cet homme. Toute l'attention de cet homme, il l'a maintenant. Comme moi, en 84, Dieu est venu chercher mon attention. Savez-vous comment? Quand ma main est morte sur la table d'opération. Quand ma main est morte sur la table d'opération, savez-vous ce que j'ai fait? Je n'étais pas croyant. Là, j'ai regardé au ciel. Là, j'ai regardé au ciel. Là, la pensée de l'éternité, elle est sortie. Puis là, j'ai regardé au ciel. Puis cet homme-là, il a eu la même épreuve. Puis qu'est-ce qui arrive? Là, il regarde. Là, il regarde à ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'il peut faire, etc., etc. C'est certain que dans la vie de cet homme, il est allé voir les docteurs, moi je ne sais pas, peut-être il y avait des sages, des magiciens. C'est certain que ce père-là, il a fait tout ce qu'il pouvait pour que son fils guérisse. Mais là, il n'y a plus d'espoir. Aucun espoir. Puis vous savez, dans des situations désespérées, ce qu'on peut faire, hein? On est prêt, les gens, on le voit, sont prêts à aller jusqu'à l'autre bout du monde, sont prêts à aller en Chine, sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir un remède. Ils sont prêts à entendre n'importe qui aussi. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que quelqu'un avait été aux îles Mokmok puis qu'il y avait eu des médicaments puis qu'il a guéri. J'ai entendu ça. Puis la plupart des gens vont être prêts à aller aux îles Mokmok ou en Chine, n'importe où. On est prêt à faire n'importe quoi quand on est en crise, quand il y a une crise. Puis là, ça nous emmène à l'étape de l'humilité. L'humilité. Regardez le verset 47. « Ayant appris que Jésus était venu en Judée, en Galilée, il alla vers lui. » Partout, on disait que Jésus de Nazareth avait le pouvoir de guérir les malades, puis lui, il l'avait entendu, ça. Ça, c'est son dernier espoir. Puis là, tout de suite, cet homme-là, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait un plein. Il va aller voir Jésus face à face. Il va lui expliquer la maladie de son fils, il va lui expliquer les symptômes, puis il va lui demander de venir à Capharnaüm pour guérir son fils. Mais cet homme ne sait pas encore qui est vraiment Jésus. Il ne sait pas, il a juste une idée, il a entendu parler, il a entendu parler de ses miracles. Ah, il aurait pu envoyer ses serviteurs, mais le message est trop important. C'est son fils. Alors, il va y aller lui-même. Puis là, il n'y a aucune façon de savoir comment Jésus va le recevoir. Est-ce que Jésus va l'ignorer? Est-ce que Jésus va le repousser? Peu importe, lui, il n'y a aucune façon de voir ça. Mais, il a l'espoir et il va aller voir Jésus. Et là, il est parti. C'est quoi qui l'a poussé à aller voir Jésus? C'est le désespoir. C'est le désespoir qui le pousse à faire ce voyage puis d'aller voir Jésus. Il est prêt à tout faire encore une fois pour que son enfant guérisse. La foi pousse à l'action. Imaginez-vous, il s'en part de Capharnaüm, puis là, il s'en va à Cana. Puis là, c'est environ de 35 kilomètres et plus. Là. Puis c'est dans les collines. C'est pas une piste cyclable. Et les collines, c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis lui, il part avec l'espoir de rencontrer Jésus. Imaginez-vous tout au long du chemin le scénario que cet homme-là s'est fait. Il faut que je le persuade Jésus de venir. Il faut que je persuade Jésus de venir à la maison pour guérir mon fils. Il va arriver devant Jésus, il doit savoir dire, « Jésus, tu peux guérir mon fils. Viens avec moi. Viens chez nous avec moi, je t'offre une semaine de vacances, toutes dépenses payées. Guéris mon fils, t'es capable, viens avec moi. Tu vas te traiter comme un pacha chez moi. Tu vas avoir des serviteurs, tu vas te traiter comme un pacha. Lui, il avait l'habitude, lui. Il avait l'habitude, lui, cet homme-là, que ce soit les gens qui viennent à lui. Mais là, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est lui qui va à Jésus. Il s'humilie pour aller vers Jésus. Verset 47. On va voir une autre étape, c'est sa recueille. Il alla vers lui, le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Il alla vers lui et le quoi? Le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt à mourir. Ce gars-là, est-ce que vous pensez qu'il a suivi un cours sur la façon de prier? Je pense pas. Avez-vous remarqué que ceux qui sont en besoin savent prier? Avez-vous remarqué ça? Ceux qui sont en besoin savent prier. Ils s'accrochent à Dieu comme un noyé peut s'accrocher à une bouée. N'essayez pas d'aller enlever leur bouée. C'est accroché ces prix-là, puis cet homme-là, il était comme ça. Ce qui est surprenant dans ce récit, c'est qu'on voit un homme puissant qui devient un mendiant. Dans la présence, quand il est arrivé dans la présence de Jésus, je m'imagine que tous les scénarios qu'il s'est affaire sont tombés à l'eau. Tout ce qu'il a pu penser, ces scénarios-là sont tombés à l'eau. Sa prière était toute simple. Jésus, viens guérir mon fils. Jésus, viens guérir mon fils. Il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est que Jésus vienne avec lui. Il savait aussi ce qu'il avait de besoin. Son besoin, c'était quoi? C'était la guérison de son fils. Puis il savait pourquoi il avait besoin de Jésus. Parce que son fils était près de la mort. Mon fils peut mourir à n'importe moment, Jésus. Il faut que tu viennes de suite. Il faut que tu viennes tout de suite. Il a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes tout de suite. Il faut. D'un côté, sa foi était positive à cet homme-là. Il croit que Jésus peut guérir son fils. Il le croit, ça. Mais d'un autre côté, il pensait à une chose, c'est qu'il faut que Jésus soit présent avec lui à Capharnaüm pour accomplir ce miracle. Jésus, tu dois te taper ces 35 kilomètres, venir avec moi pour guérir mon fils. Il y a un fait à remarquer dans cette histoire aussi. Cet homme-là, quand il est arrivé à Jésus, il ne s'est pas servi de son argent, il ne s'est pas servi de sa position, son pouvoir pour convaincre Jésus. Il n'a pas dit, « Hey, moi, je suis beau, je suis fin, j'ai une grande famille, je m'occupe de ma famille, etc. » Je mène une bonne vie. Non, il a tout simplement exprimé son besoin. Ça nous amène au verset 48. La persévérance. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Puis là, on a l'impression que Jésus ici est un petit peu rude. Hey, là, si vous ne voyez pas des miracles, des prodiges, là. On a comme l'impression qu'il est irrité un petit peu. Mais en réalité, Jésus, tout ce qu'il fait ici, c'est qu'il met la foi de cet homme à l'épreuve. C'est ça qu'il est en train de faire ici. Viens-tu juste me voir pour avoir un miracle? Ou sais-tu qui je suis réellement? C'est quoi l'affaire, là? Mais regardez, cet homme, tout ce qu'il fait, il répète simplement sa prière. C'est comme lui s'il disait, « Moi, je comprends rien, Jésus, à tout ce que tu es en train de dire, là. À ces trucs de miracles, de prodigues. Là. Moi, je ne connais pas ça. Là. Moi, là, je n'ai pas étudié la théologie. Je ne suis pas allé chez Sambeck. Elle était BQ, elle était IA, peu importe. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Tu peux guérir mon fils. Tu peux guérir mon fils. Une condition, par exemple, qu'il mettait. Et quoi la condition? Si tu viens avec moi. Tu peux guérir mon fils si tu viens avec moi. une foi dans un sens imparfaite, parce qu'il pensait que Jésus devait être au chevet de son fils pour pouvoir le guérir. Mais on voit ici la grâce de Dieu, la grâce divine. Jésus lui fait aucun reproche. Il répond à la mesure de sa foi. Il répond à la mesure de sa foi. Mes frères, mes sœurs, là, si on veut faire rire Dieu, là, disons-lui quoi faire pour régler nos problèmes. Disons-lui quoi faire pour régler nos problèmes. À ta place, je ferais ça. Dieu, je sais que tu es capable, mais si tu ferais ça comme ça, ça irait bien. Ça irait mieux. Le plan du Seigneur n'était pas de monter à Capharnaüm, lui. Ça, c'était pas dans le plan de Dieu du tout de Jésus de monter à Capharnaüm. Le Seigneur avait quelque chose de bien mieux, plus merveilleux pour accomplir dans la vie de cet homme et de sa famille. Ce qui nous emmène à une autre étape, l'obéissance. Verset 50. Jésus lui dit, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Lui, il dit, « Descends. Descends avec moi. Viens avec moi. » Puis Jésus lui dit, « Va. Descends. Va. » Que va faire cet officier? Bon, on le sait, on la connaît l'histoire. C'est certain que l'Esprit de Dieu a dû convaincre cet homme. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux y faire confiance. Vas-y. Va-t'en. Fais-lui confiance. C'est ce qu'il a fait. La foi de cet homme-là, elle est montée à une étape supérieure, plus grande. Est-ce que nous aurions argumenté avec Jésus? Comme Naaman, quand Élisée lui a dit, ben, il n'y a même pas Élisée qui lui a dit, il a envoyé un serviteur pour lui dire, va sa foi dans l'eau, là, dans cette, je ne sais pas, m'apparaît depuis quoi, là. On n'a pas le temps de le lire, là, puis il dit, puis là, l'autre, il a répondu, ouais, mais là, notre lac, là, ou notre rivière n'est pas mieux que celle-là, puis là, il a commencé à argumenter jusqu'à ce qu'il se repente, puis qu'il aille, puis là, il a été guéri. Cet homme n'a aucune preuve, là. Aucune preuve extérieure, aucun signe miraculeux pour solidifier sa foi. Il n'y a qu'une chose. Il y a la parole de Jésus. Il risque la vie de son fils sur la parole de Jésus. Cette corde est-elle assez solide pour lui? Est-ce qu'elle est assez solide pour lui? Oui, hein? Nous, on le sait qu'elle est assez solide. Augustin a dit, il y a plusieurs définitions de la foi, mais Augustin a dit, lui, « La foi, c'est croire ce que nous ne voyons pas, et la récompense de la foi, c'est d'avoir ce que nous croyons. » Moi, je trouve ça merveilleux, je vais vous la répéter. « La foi, c'est croire ce que nous ne voyons pas, et la récompense de la foi, c'est de voir ce que nous croyons. » Il est parti! Sixième étape, je n'en ai sept, pas long. Sixième étape, c'est la confirmation. Regardez au verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit! » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit! » Et il crut, lui et toute sa famille. Entre vous et moi, là, Jésus me dit, va. Je quitte Jésus. Là, je suis le chemin du retour. Là, je me tape, c'est 35 kilomètres et plus. Quelles sont, dans ma tête, quelles sont les interrogations que je me pose? Comment, là, je pense à l'autre bout, mais j'arrive? Qu'est-ce qui va être arrivé? Qu'est-ce qui va s'avoir passé? Et puis, il s'en va. Il peut se dire, mon fils peut avoir été guéri, mais est-ce que la convalescence va être longue? Est-ce qu'il va avoir ci? Est-ce qu'il va être ça? Puis là-bas, là, il regarde, puis il voit au loin, savez-vous ce qu'il voit? T'as un groupe de personnes qui vient à sa rencontre. Puis là, regarde une gang là, de loin, puis il dit, « Hey, ce sont mes serviteurs, ça. Hey, c'est ma gang, ça. » Est-ce qu'ils ont le visage triste? Est-ce qu'ils ont le visage heureux? Pourquoi ils sont là? Une bonne nouvelle? Une mauvaise nouvelle? Mais non! Ils sont en train de rire. Ils rient, ils sautent de joie, ils sont contents, ils crient, « Maître, maître, maître! » Puis là, ils s'approchent de lui. Puis là, le maître, il dit, « Dites-moi, dites-moi, ton fils est guéri, maître. Ton fils est guéri. Ben, racontez-moi comment ça s'est passé. Ben, hier, à la septième heure, on était au chevet de ton fils, et sans qu'on sache le comment et le pourquoi, instantanément, la fièvre l'a quitté. » Wow! Imaginez-vous la gamme d'émotions qui s'est passée dans cet homme. Moi, je le vois, là. Je le vois avec mes yeux. Il a dû s'agenouiller. Il a dû crier. Il a dû pleurer. Il a dû sauter de joie. Il a dû danser avec les gens, ses serviteurs. Il a dû crier « Gloire à Dieu! Gloire à Jésus! » Oui, Jésus est réellement le maître du temps et de l'espace. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place, là. Il a le pouvoir d'accomplir des miracles, même à longue distance. Moi, je trouve ça merveilleux. Puis on arrive à la dernière étape. Cet homme s'engage à Jésus. S'engage avec Jésus. Verset 53. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. La foi de cet homme était devenue si grande, si mature, que cette foi-là, elle est devenue contagieuse. Contagieuse pour les siens. Probablement sa femme, son enfant, tous ceux qui étaient dans la maison, les serviteurs. Ils ont tous cru en Jésus. Conclusion, si nous voulons développer notre foi, une chose à faire, seulement une chose, on doit absolument faire confiance en Jésus-Christ, à Dieu, de tout notre cœur, même dans l'épreuve. Dieu se sert des épreuves pour nous faire grandir. Prenez 1 Pierre 5, 6 à 11, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce réellement le désir de notre cœur? Est-ce réellement le désir de mon cœur à moi, de votre cœur, de vouloir s'en remettre entièrement à Jésus-Christ, ce Dieu sauveur? Est-ce que c'est réellement notre désir de lui donner notre vie entière? Savez-vous ce qu'il nous dit, notre Seigneur? Va en paix. S'il nous dit ça, est-ce qu'on va l'écouter? S'il me dit « va en paix », est-ce que je vais l'écouter? Oui? Regardez Philippiens, je termine avec ça. Philippiens 4. Il me le dit, il vous le dit, il nous le dit tous, « va en paix ». Philippiens 4, versets 6 à 7. On est inquiet? On a des épreuves? Regardez ce que Dieu me dit, ce que Jésus-Christ lui-même nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Va en paix. Une fois que tous nos problèmes lui sont remis, qu'est-ce que je dois faire? Lui faire confiance. Faire confiance en Dieu et croire que lui va agir en ce qui a le mieux, il va faire ce qui a le mieux pour moi. Il va faire ce qui a le mieux pour moi dans cette épreuve, toujours pour sa gloire à lui. Ayons pas peur de la corde avec laquelle il nous a attachés. Que nous sommes attachés, elle brisera jamais. Je termine, je ne veux pas vous virer, là, je vais terminer avec Romains 8, 38-39, une belle promesse. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes dans sa main. Nous sommes en sécurité avec lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Va en paix. Je ne te donne pas la paix comme le monde donne, mais je te donne ma paix. Ma paix. Ce qu'on va faire dans quelques instants, puis j'aimerais que les proposés puissent s'avancer. On va voir un autre chant, puis on va aller dans la présence de Dieu, puis on va aller faire ce qu'il nous a demandé un jour, ce qu'il nous a laissé un mémorial. Le mémorial de sa mort, le mémorial de ce qu'il a souffert, son pain, le pain rompu, le sang versé. Puis le mémorial aussi que sans ce pain, sans ce sang, ben le plus grand miracle qu'il y a eu dans vos vies, dans ma vie, c'est que le Seigneur, par ça, il nous a fait passer de la vie à la mort. Il nous a de la mort à la vie. Ben, c'est bien. Amen.
Amen.
Puis ce que je voudrais faire ce matin, j'aimerais inviter René ici. René, il voudra bien venir présider la table du Seigneur. Ce serait un privilège pour moi et pour nous, René, que tu présides cette table-là avec nous ce matin.